Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Merci d'être avec nous pour parler du Rwanda après la victoire écrasante de Paul Kagame à la présidentielle de vendredi dernier. Une victoire contestée par l'opposition. Les États-Unis, eux, se sont dit troublés par des irrégularités. D'ailleurs, la candidature de Paul Kagame avait déjà soulevé des questions. Elle a été rendue possible grâce à une modification de la Constitution il y a 2 ans. Modification qui lui permet maintenant de rester au pouvoir jusqu'en 2034 s'il gagne les prochaines élections. Et pour l'instant, eh bien, les scores sont extrêmement encourageants pour le parti au pouvoir puisque le président vient d'être réélu avec plus de 98% des voix. Faut-il y voir le choix de la stabilité, d'un modèle de développement que l'on cite souvent en exemple sur le continent africain? Ou au contraire, est-ce le résultat d'une politique d'étouffement de l'opposition? Pour lancer le débat, on accueille Yves qui nous appelle de Kigali. Bonjour.
Bonjour, comment vous allez? Et bonjour à tous les auteurs de RFI.
Ça va très bien, je vous remercie. Alors, le Rwanda est-il un pays modèle pour vous, Yves?
Il est très modèle. D'abord, vous avez parlé de l'étouffement de l'opposition. Il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas d'opposition au Rwanda. Une opposition, parle-moi du Congo. On a des leaders qui envoient des gens dans la rue, ils ont des gens derrière eux. Au Rwanda, il faut faire la différence entre lutte contre les droits de l'homme et la lutte contre l'apologie et la négation du génocide. Ceux qui sont en prison, ils sont là parce qu'ils ont été condamnés pour apologie du génocide et négation du génocide de Tutsi de 94.
Alors on parle notamment de l'opposante Victoire Ingabire qui est en prison depuis plusieurs années et qui doit y rester encore 16 ans.
Elle n'est pas opposante. Elle n'arrive même pas à réunir 100 personnes. Parlez-moi de Moïse Katumbi au Congo, de Jean Ping au Gabon ou de Tshivarare au Zimbabwe. Un opposant a des gens derrière lui. Il demande combien de fois vous avez déjà assisté à une marche ou à une manifestation qu'elle a donnée. Même pendant son procès, il n'y avait même pas 100 personnes. Alors faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle n'est pas opposante. Elle est venue, elle a fait l'apologie du génocide. Elle a nié le génocide de Tutsi en 1994 et comme les lois interdisent ça, comme chez vous en France, c'est comme ça qu'elle a été arrêtée.
Alors Yves, il y a quand même certains candidats qui n'ont pas pu se présenter pour la présidentielle. Il y a des candidats qui ont été écartés par la commission électorale. Yves, est-ce que vous nous entendez toujours? Bon, j'ai l'impression que la ligne... Yves, nous on vous entend. Est-ce que vous nous entendez toujours?
Ok. Oui, allô?
Oui, est-ce que si vous nous entendez, il y avait quand même d'autres candidats, des candidats qui ont été écartés pour cette présidentielle. Est-ce que ça n'est pas une manière d'affaiblir justement l'opposition et ça expliquerait le fait que...
Non. Celle qui a été écartée n'a pas rempli les conditions.
Je ne parle pas seulement de Victoire Ingabire, hein, je vous parle d'autres candidats qui n'ont pas pu se présenter lors de cette présidentielle.
Qui? Parlez-moi d'un nom, parce que c'était ouvert. Et si ces gens-là ont été écartés, qu'ils avaient des gens, on aurait eu ces gens sur la rue, ils allaient manifester. C'est ça la réalité en Afrique. Les Rwandais ne sont pas différents des autres peuples africains. Ce sont des Rwandais, ce sont des gens intelligents, ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent. Ils ont voté pour le président qu'ils voulaient, pour le parti qu'ils voulaient, pour une politique qu'ils voulaient.
Donc,
on est en train de construire le Rwanda.
Donc pour vous, c'est un plébiscite et le Rwanda est donc un pays modèle.
C'est pas pour moi, c'est une réalité, c'est un plébiscite. Si aujourd'hui la population rwandaise a voté pour le FPR et pour le Kagame, c'est parce qu'ils ont vu les résultats qu'ils ont donnés pendant 23 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'unité du pays, ça veut dire la stabilité du pays, ça veut dire l'économie du pays. Il y a plus de 2 millions de personnes qui ont quitté le seuil de pauvreté pour accéder à un seuil de richesse. Ça sont des réalités. Et ce sont des réalités palpables, dites par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, tous les organismes internationaux. Alors, faut vraiment, ça c'est vraiment de là. C'est de la mauvaise foi de dire que le Rwanda est un pays. Le Rwanda n'est pas l'Érythrée. Regardez ce qui se passe ici à côté au Burundi, avec leur politique de division de races.
Merci Yves d'avoir été avec nous. On va accueillir maintenant Léonard qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Léonard.
Bonjour Anne Campner et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre? Est-ce que le Rwanda est un modèle selon vous?
Il faudra dire que le Rwanda est un modèle du point de vue de l'économie, parce que c'est un pays qui, chaque jour, est en train de grandir en flèche, et les résultats sont palpables sur terrain. Maintenant, la vraie question qu'il ne faut pas se poser, est-ce que c'est un pays aussi démocratique? Là, il faudra donc nuancer le point de vue. Parce que nous ne pouvons pas toujours penser que la démocratie doit être classique et de la manière dont on la pense. Je pense que chaque pays devrait créer un modèle démocratique et essayer de s'en approprier. C'est ce qu'a su faire ce pays, parce que la démocratie dit la loi de la majorité. Aujourd'hui, c'est un pays qui évolue bien, et puis le peuple est en train de comprendre qu'il faille créer un système politique soit propre au Rwanda. C'est ce que Paul Kagame a su faire en se faisant pratiquement plébisciter. Lorsqu'on parle d'une démocratie, on doit justement prendre en compte cette notion de la grande majorité. Et vous avez compris que aujourd'hui, le peuple a non seulement voulu maintenir Paul Kagame au pouvoir, bien sûr, parce qu'elle pense que c'est un homme qui fait évoluer le pays et dans un sens tout à fait positif.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, Léonard. J'écourte un peu notre échange parce que la ligne n'est pas très bonne. Je suis désolée, mais on vous entend assez mal. On va accueillir maintenant François qui nous appelle de Belgique. Bonjour.
Oui, en fait, ce qu'on a vu au Rwanda, c'est pas une élection. C'est un simulacre électoral qui a été orchestré dès le début. Parce que la Commission nationale électorale a écarté les vrais opposants, et qui étaient Diane Rwigara et Gilbert Mwenedata, et pour des motifs fallacieux, donc en disant qu'ils n'ont pas de signature requise pour pouvoir concourir. Mais exactement, c'est parce que les deux avaient beaucoup de critiques envers le pouvoir, envers Kagame. Et comme Kagame est intolérant et qu'il ne veut jamais entendre une voix discordante, il les a éliminés dès les premiers jours. Et maintenant, je peux vous dire que maintenant, Kagame Rwigara est dans de grands problèmes, parce que suite à ça, l'usine de sa famille a été fermée pour motif qu'il aurait fraudé au fisc de 6 milliards de francs rwandais.
Alors, selon vous, cela signifie que l'opposition ne peut pas s'exprimer aujourd'hui au Rwanda?
Pas du tout. L'opposition est écrasée. Les deux personnes que vous avez vues qui ont concouru avec Kagame, ce sont ses admirateurs, et qu'il a choisi sciemment pour l'accompagner, pour tromper le monde, qu'il a fait une élection.
Alors, et quand la communauté internationale salue les succès économiques du Rwanda, qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, ces succès économiques du Rwanda, c'est un grand pur mensonge du XXIe siècle. Le Rwanda, c'est un pays qui s'est construit une image moderne avec une capitale qu'on a chassée de la population pauvre de la capitale. Ils ont essayé de construire quelque chose de plus brillant. Mais le reste de la population qui vit dans les campagnes, presque 90% de la population vit dans la misère. Il y a beaucoup dans des régions de l'Est, par exemple, des gens qui meurent de faim.
Alors, il y a quand même quelques progrès. Il y a 91% de la population qui est couverte par l'assurance maladie, 95% qui a accès à l'Internet mobile au débit. La corruption a aussi considérablement baissé. Le revenu par personne a augmenté. Est-ce que ça, ce ne sont pas quand même des signes que la situation change et que les choses s'améliorent?
Madame, ces statistiques sont données par le gouvernement rwandais, parce que je ne sais pas si vous le savez, depuis 2015, depuis qu'un institut britannique qui faisait les statistiques sur le Rwanda, qui s'appelle Oxford Police Management, avait dit qu'il y avait eu des manipulations dans les chiffres de la pauvreté, où justement ils avaient fait des statistiques, ils ont su qu'il y a eu l'augmentation de la pauvreté de 6%, et le gouvernement rwandais n'a pas voulu diffuser son rapport tel qu'il était. ils ont tripatrié des chiffres pour pouvoir montrer qu'ils ont réduit beaucoup la pauvreté. Et à ce moment-là, le Rwanda a décidé qu'il n'y aura plus que leur institut
Alors ça, je dois reconnaître que je n'ai pas entendu parler de l'étude que vous évoquez. En revanche, il y a quand même des chiffres qui viennent d'institutions et d'organismes internationaux, notamment le fait que le Rwanda est aujourd'hui classé 4e au classement de Transparency International qui lutte contre la corruption. On va poursuivre ce débat avec Jimmy. Bonjour.
Bonjour Madame Anne, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Ce que l'on évoquait à l'instant avec François, la croissance, la santé économique du Rwanda, est-ce que c'est un bon argument selon vous?
Non, c'est du pur mensonge, c'est la santé économique ou bien la croissance au Rwanda, c'est du très montage. Nous savons que le Rwanda, c'est un des derniers dictateurs que les Africains sont en train de connaître, là, pour Kagame. Et les élections, ça vient de se passer là-bas, c'est ce qu'on appelle à la congolaise le théâtre de chez nous. C'est du pire montage. Ça, c'est pas des élections, ça.
Alors, qu'est-ce qu'il manque au Rwanda, selon vous?
Ce qui manque au Rwanda, c'est tout simplement la vraie démocratie. La vraie démocratie.
Jimmy, je suis désolée, je vous interromps, mais on vous entend vraiment extrêmement mal. Je suis désolée auprès des auditeurs qui essayent de nous suivre. C'est vrai que la ligne n'est pas très bonne. On a pas mal de réactions sur Facebook. Teyane nous écrit que si Paul Kagame gère bien le pays, eh bien sa durée au pouvoir ne pose pas de problème. Kolo rappelle d'ailleurs qu'Angela Merkel est toujours en fonction en Allemagne et que ça n'entraîne aucune dénonciation nulle part dans le monde. Et puis Chaibou écrit « S'éterniser au pouvoir est le seul moyen de développer parce que nos dirigeants pillent généralement au premier mandat et se mettent à effacer les traces au second en préparant une succession. » Bonjour Nathalie.
Bonjour Anne.
Nathalie, vous nous appelez de Kigali. Selon vous, la longévité au pouvoir de Paul Kagame, c'est plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le Rwanda?
Je crois que c'est un faux argument ou faux argument, parce que les Rwandais, on regarde les résultats. Je crois qu'il faut qu'on discute des résultats. J'espère que le président Kagame a un programme, si ça réussit, les Rwandais votent par intérêt. C'est vrai que beaucoup sont des rescapés du génocide, ont vu des progrès. Il y a beaucoup de il y a un contexte au Rwanda, mais je crois que ce qui est important, c'est qu'il a su amener des changements qui étaient presque miraculeux au Rwanda. J'ai entendu François parler de beaucoup de choses, mais il faut qu'on vit dans les faits.
Alors, quel changement, par exemple, en quoi votre vie quotidienne à vous, par exemple, a changé ces dernières années?
Moi, j'ai 30 ans et je peux dire que j'ai plus d'accès à d'opportunités de travail ici que j'ai vécu aussi au Canada. Il y a l'opportunité de participer dans le changement que vous voyez tous les jours. Ça veut dire que, par exemple, moi qui travaille dans les sciences, de voir comment on peut augmenter la qualité de l'éducation, ça se fait tous les jours. Il y a un impact tous les jours. Alors, je crois que les jeunes, et pour ceux qui travaillent dans l'agriculture, il y a des changements. C'est pas pour dire qu'il y a des choses qui vont rester les mêmes. Il y a des changements qui sont nécessaires. Et il y a un progrès qui est nécessaire. Et c'est pour ça qu'on a donné ce mandat à Kagame, parce qu'il nous a montré que, lui, quand on vote pour lui, il y a un changement qui est visible.
Voilà, donc pour vous, Nathalie, si je comprends bien, c'est Paul Kagame qui est à même de mener les changements et de poursuivre le développement du pays. Sur Facebook, Souley nous dit que sur le plan économique, eh bien, il faut saluer la performance sans pareil du Rwanda, mais que politiquement, le pays cherche encore ses marques. Selon lui, le peuple est muselé, la liberté d'expression quasiment inexistante et que les votes sont à la limite imposée. Je vous lis un autre commentaire sur Facebook, celui d'André, qui nous dit « Le Rwanda, c'est la Chine de l'Afrique. C'est vrai qu'il n'y a pas de démocratie, bref, pas un état de droit au sens strict du terme, mais c'est un pays développé. » Bonjour François.
Oui, bonjour Anne-Claire.
Vous nous appelez de Bangui en Centrafrique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse qu'il n'y a pas une démocratie parfaitement aboutie au Rwanda, mais que le pays se développe et qu'en fait c'est peut-être là l'essentiel?
Oui, je vais arriver à la démocratie sans parler depuis le début de l'émission, je veux dire. Mais voyons le Rwanda, il y a quelques années, il y a plus de 20 ans, on parlait de génocide, de déplacement massif des populations, etc. Eh bien, ce même Rwanda, je vais parler de lui, parfois des communes de résistance, de son développement.
François, je suis sincèrement désolé, je suis obligé de vous interrompre et je m'excuse auprès de tous nos auditeurs. On a des problèmes assez importants au niveau des lignes téléphoniques aujourd'hui et c'est dommage qu'on ne puisse pas vous entendre. Nous sommes en ligne avec Valérie qui nous appelle de Bruxelles. On espère que la ligne sera meilleure. Bonjour Valérie.
Bonjour Anne.
Est-ce que vous partagez les opinions qui ont été annoncées sur Facebook concernant bien, le développement économique du Rwanda qu'il faut saluer, même si il y a encore quelques efforts à faire concernant la démocratie et le respect des droits de l'homme?
Oui, moi je tire un coup de chapeau au président Kagame pour le travail qu'il a mené. Il ne faut pas oublier ce que le Rwanda a connu comme génocide, comme problème politique. Mais le développement du Rwanda aujourd'hui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que j'entends les gens qui font de l'amalgame, ils disent que Angela Merkel est encore au pouvoir et personne ne s'en plaint. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. La démocratie, c'est un package et on ne peut pas dire que on développe son pays et pour ça, on a le droit de torturer ses opposants. Et vous voyez le score de cette élection, mais ça frise même l'indécence. Ce n'est qu'en Afrique ou peut-être dans les républiques caucasiennes qu'on peut trouver de tels scores.
Plus de 98% effectivement pour le président rwandais ce week-end.
S'arranger pour ne pas avoir 100%, parce que c'est tout à fait possible à son niveau de faire un tel score.
Et mais alors qu'est-ce que vous pensez de ce score? Est-ce que selon vous ça signifie que les chiffres ont été manipulés?
Moi, je le pense sincèrement. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'il a développé le Rwanda qu'on viendrait me dire que 98% de Rwandais l'applaudissent ou se couchent ou bien sont tellement admiratifs qu'ils ne pensent pas qu'il y a un autre Rwandais qui peut continuer le travail de Kagame. Kagame a fait du bon travail, mais il ne peut pas s'éterniser au pouvoir. Il n'est pas le seul Rwandais. Il y a bien d'autres qui sont capables de venir continuer ses œuvres.
Est-ce que vous pensez que le Rwanda, en fait, encourage cette image d'homme providentiel de Paul Kagame?
Ben, moi, ce que je veux dire, c'est quoi? Le Rwanda, on dit le peuple, il a le dirigeant qui mérite. Mais moi, je pense que si les opposants de Kagame sont muselés, il y a de quoi Kagame va se passer comme le seul capable de faire ce que le Rwanda est capable de faire aujourd'hui, ce qui est faux. Malheureusement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est au pouvoir, qu'on a tous les médias pour soi, qu'on maîtrise l'appareil de l'État, les autres ne peuvent pas s'exprimer autrement que, je ne sais pas, en allant en exil, comme il y en a beaucoup ici, par exemple, en Europe. Moi, je ne pense pas que Kagame est aussi adulé que ça, parce que le score qu'il a réalisé, moi, je dis, il devrait même en avoir honte, ou alors tirer les leçons et se dire, j'ai vu, et dire à son peuple qu'il a vu l'amour qu'ils ont pour lui et qu'il peut passer la main à quelqu'un d'autre.
Merci Valérie de votre appel et merci à tous d'avoir participé à ce débat. Très bonne journée à l'écoute d'RFI. Demain, nous parlerons de la Centrafrique. Les besoins humanitaires sont toujours énormes, mais dans le nord-est du pays, certaines ONG ont dû arrêter leur travail à cause des attaques. N'hésitez pas à nous appeler dès maintenant ou à nous écrire.
Vous avez suivi Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, solution de transfert d'argent accessible depuis votre mobile au dièse 144 dièse.